monde, monde nouveau. Aimer la vie,
aimer ensemble,
donner sa vie,
donner ensemble,
choisir la vie,
choisir ensemble,
aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Payer de soi,
payer ensemble,
risquer de soi,
risquer ensemble,
chercher en soi,
chercher ensemble,
payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Changer nos cœurs.
Voilà, le plaisir est pour nous de vous accompagner ce matin. Salutations à vous et bienvenue à cette émission, ces programmes psychologiques avec M. André Itandala. Une nouvelle année, un nouveau chapitre, santé mentale et une adaptation scolaire des enfants. Monsieur André, bonjour.
Bonjour papa Bob et bonjour à tous nos chers auditeurs.
Voilà, c'est la première émission de l'année.
Tout à fait.
Et puis c'est le nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous allons jeter les bases, c'est les généralités qu'on va tout de suite vous proposé et ça sera avec monsieur André Itandala. Alors je vous communique déjà les numéros pour participer à cette émission. Vous pouvez participer à cette émission au 081 99 66 098, 081 99 66 098. D'abord la première partie, la partie magistrale avec monsieur André Itandala. Vous avez bien la parole.
Merci beaucoup. Alors pourquoi un tel thème? Eh bien, lorsqu'on envoie son enfant à l'école, c'est pour que celui-ci fasse de bons résultats. Pour tout parent, la réussite de l'instruction et de l'éducation est le but poursuivi en envoyant son enfant à l'école. Et pourtant, l'échec scolaire est une triste réalité bien connue de beaucoup de parents. Certains en souffrent, d'autres en ont honte. D'autres encore sont comme résignés, ne sachant quoi faire. Mais dans la plupart des cas, les uns les autres cherchent une explication aux échecs scolaires plus ou moins répétés de leurs enfants. Pourquoi mon enfant a-t-il échoué à l'école? L'échec scolaire de l'enfant peut être insupportable et douloureux pour le parent, d'autant plus qu'avec les temps qui courent, dans une société comme la nôtre, la scolarisation des enfants exige d'énormes sacrifices. Le présent thème concerne particulièrement les éducateurs et les parents ayant des enfants en âge scolaire, mais aussi il peut être utile pour ceux et celles qui se préparent à devenir parents, qu'il s'agisse des jeunes couples, des fiancés ou des jeunes adultes se préparant au mariage. Dans notre milieu culturel, l'école est parmi les lieux essentiels de l'éducation et donc de la socialisation, de l'humanisation. L'inadaptation scolaire est donc un problème à prendre très au sérieux. Généralement, quand il s'agit d'un échec scolaire, on tend spontanément à culpabiliser l'enfant qui ne se serait pas suffisamment appliqué, ou carrément qui ne serait pas assez intelligent, ou bien encore qui se serait distingué par des comportements antisociaux en milieu scolaire, insoumission caractérisée aux autorités scolaires, bagarre récurrente avec ses pairs, dérangement en classe, et ainsi de suite. En conséquence, certains parents optent pour des mesures draconiennes. Privation et punition, parfois des punitions corporelles, changement d'établissement scolaire dans l'espoir de remédier à une situation qui peut s'avérer préoccupante. Il y en a qui vont jusqu'à envoyer les enfants dans des structures scolaires avec internat, espérant que les choses les choses s'améliorent. Mais parfois, les résultats escomptés n'arrivent pas. Dans certains cas, la situation peut s'empirer. Alors, que faire? Avec ce nouveau thème, l'émission « Voici mon problème » tente de répondre à un certain nombre de questions sur le rendement scolaire de nos enfants. Quels peuvent être les facteurs de l'échec scolaire de nos enfants? Et inversement, comment créer les conditions optimales pour leur réussite? Est-il vrai que l'échec scolaire est nécessairement lié à un déficit intellectuel? Quel est le rôle du milieu social, notamment la famille et l'école, pour le développement intellectuel et psychosocial de l'enfant, pour un bon apprentissage? Existe-t-il une corrélation entre la santé mentale et l'adaptation sociale et scolaire de l'enfant? Enfin, existe-t-il des troubles psychologiques qui peuvent interférer avec l'adaptation scolaire de l'enfant? Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur certaines questions d'ordre général. Première question. Que faut-il entendre par santé mentale, particulièrement chez les enfants en âge scolaire? Cette question paraît banale, mais en réalité, elle est complexe. Complexe parce que tout d'abord, quand on parle de la santé mentale, la plupart des gens pensent à des problèmes psychiatriques sévères, comme la schizophrénie, l'humeur dépressive majeure, la paranoïa. Mais en vérité, la santé mentale signifie la capacité d'entretenir des rapports positifs et constructifs avec soi-même et avec son environnement immédiat, et cela selon son âge. Cela fait que l'incapacité permanente d'avoir de bonnes interactions avec soi-même et avec son environnement relève d'une psychopathologie. On n'a pas forcément besoin d'aller en psychiatrie. On peut être complètement lucide et capable de bonnes décisions, mais on reste globalement déséquilibré dans ses rapports avec l'environnement et par conséquent, incapable de mener une existence paisible et épanouie. La question de la santé mentale des enfants est complexe aussi par le fait qu'il n'est pas facile d'imaginer que la santé mentale ne concerne pas que les adolescents et les adultes, mais que même les tout petits enfants peuvent avoir de sérieux problèmes psychologiques. De manière générale, un enfant fait preuve de bonne santé mentale lorsque son développement biosocial, cognitif et psychosocial est bon. Sur le plan biosocial, il s'agit des changements corporels et cérébraux ainsi que des influences sociales qui sont à la base de tels changements. L'enfant se développe sur le plan biologique et réagit convenablement à son entourage, selon son âge. Le domaine cognitif comprend la maîtrise progressive de la motricité par l'enfant, les processus de la pensée, notamment sa genèse, son évolution et sa maturation. L'éveil de la conscience de soi et du monde qui l'entoure se manifestant par la curiosité et l'intérêt pour l'exploration de l'environnement. Les capacités perspectives et la maîtrise de la langue. Il s'agit donc de tous les processus mentaux mis en acte pour acquérir des connaissances et pour tisser des relations avec l'environnement immédiat. Pour ce qui est du domaine psychosocial, il s'agit du développement de l'affectivité et des liens sociaux, les émotions, les relations interpersonnelles, l'attachement aux personnes familières, le parent en particulier, la fratrie, s'il y en a, et tous les complexes du contexte socio-culturel qui les conditionnent. Bref, la santé mentale de l'enfant se mesure au progrès que celui-ci réalise progressivement dans la maîtrise de sa motricité de tout son corps, au développement biologique anatomique, aux interactions avec l'entourage et à l'exploration de son milieu, toujours selon son âge. Donc, un enfant peut avoir des sérieux problèmes de santé mentale sans qu'on s'en rende compte. Deuxième question. Que faut-il entendre par l'inadaptation scolaire pour un enfant? Le terme d'inadaptation scolaire désigne une situation où un élève a des difficultés de se conformer aux normes et aux exigences de l'école. De telles difficultés se traduisent par des attitudes et des comportements qui ne favorisent pas de bonnes interactions avec les camarades et les autorités scolaires, en ayant un impact négatif sur l'apprentissage et évidemment sur le rendement scolaire. Les causes de l'inadaptation scolaire sont multiples, entre autres. Il peut s'agir des problèmes de santé ou malformations congénitales, donc santé physique. Est-ce que votre enfant n'a pas de problèmes d'ouïe ou de vue ou autre? Est-ce que votre enfant voit très bien, entend très bien? Il a des problèmes, on va dire, anatomiques ou physiologiques qui l'empêchent de bien comprendre, bien entendre, bien voir ou bien parler, bien articuler son langage. Il peut s'agir aussi des problèmes psychiques de l'enfant lui-même, ce qui renvoie à son milieu familial, c'est-à-dire au système éducatif et style de vie de la famille, précisément à la qualité de rapport entre l'enfant et les figures parentales, mais aussi des parents entre eux. En termes clairs, l'enfant peut avoir des difficultés à s'adapter au milieu scolaire et à faire de bons résultats parce qu'il est psychologiquement malade à cause de la situation familiale dans laquelle il se trouve. Il peut être question du style pédagogique de l'enseignant. L'enfant peut éprouver des difficultés à se socialiser en milieu scolaire tout simplement parce que l'enseignant ne fait pas bien son travail. La personnalité ou le caractère de l'enseignant compte énormément pour la socialisation de ses élèves en milieu scolaire. Ainsi, par exemple, un enseignant brutal et arrogant terrorise ses élèves et par le fait même crée, par ses comportements, un climat non propice à la socialisation et à l'apprentissage. Suite à cela, et selon leur tempérament, les élèves peuvent développer de l'agressivité ou de la timidité. Il peut s'agir aussi d'un manque d'empathie de la part de l'enseignant, manifestant de la froideur et une distanciation émotionnelle vis-à-vis de ses élèves. Bref, un style pédagogique qui ne motive ni ne suscite l'intérêt chez les apprenants étouffe la curiosité, la créativité et la sociabilité des enfants. Conséquence, grande probabilité de l'inadaptation scolaire. La quatrième cause que je vous propose, la dernière que je vous propose, c'est l'inadaptation scolaire peut être due au déficit intellectuel de l'enfant. Le développement cognitif est un facteur important de l'inadaptation, aussi bien scolaire que sociale tout simplement. Pour pouvoir comprendre les normes du groupe dans lequel il se trouve ici et maintenant et s'y conformer, mais aussi pour assimiler la matière enseignée, l'enfant a besoin d'une certaine maturité cognitive sans laquelle la vie en groupe est impossible. Ainsi donc, l'inadaptation scolaire peut être causée par un trouble du développement intellectuel, se caractérisant par un fonctionnement intellectuel et social significativement inférieur à la moyenne de son âge. Donc, l'enfant ne parvient pas à s'adapter au rythme de l'école. Pourquoi? Parce que son développement intellectuel n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on est censé savoir sur son enfant pour s'améliorer et éventuellement chercher de l'aide? Nous tenterons de donner des éléments de réponse à cette question au fil de nos causeries. Pour aujourd'hui, nous avons voulu souligner trois choses qui sont rarement évoquées en cas de l'échec ou de l'inadaptation scolaire. Premièrement, en principe, L'enfant n'est pas responsable de son échec ou d'inadaptation scolaire. Et même s'il savait qu'il ne s'applique pas suffisamment, ce n'est pas de la mauvaise foi de sa part. Pour ce qui concerne sa scolarité, l'enfant évolue dans deux systèmes éducatifs censés collaborer, la famille et l'école. Pour maximiser les chances de réussite de l'action éducative, ces deux systèmes sont pour ainsi dire obligés de se compléter l'un l'autre. La famille et l'école doivent se compléter, travailler ensemble. Deuxièmement, les enfants peuvent avoir des problèmes psychiques qui peuvent être à l'origine de l'inadaptation scolaire sans qu'on s'en rende compte. Troisièmement, enfin, un échec scolaire n'est pas nécessairement un indice de la faiblesse du quotient intellectuel de votre enfant. Celui-ci a beau avoir un quotient intellectuel élevé, mais si les conditions psychologiques et environnementales ne sont pas réunies, son adaptation scolaire sera pénible, voire impossible, et son rendement médiocre. Car la socialisation, la réussite scolaire dépendent de beaucoup de facteurs que nous venons d'évoquer là. Nous vous remercions.
Merci beaucoup à vous, monsieur André Tandala, cher parent. Je sais que les élèves sont maintenant à l'école. Et là, vous êtes d'ailleurs indexé, participez à cette émission au 081-99-66-098. 081-99-66-098. Tournons de l'autre côté de la technique. Nicolas Monaconda.
Keep chanterai un chant nouveau. Je jouerai sur la harpe pour toi qui me sauve de l'amour éternel.
Je te joue, oh Ophélie, car tu fais tout pour moi.
Bien, nous sommes en direct l'émission Voici mon problème, un programme psychologique. Participez au 081 99 66 098. Santé mentale et inadaptation scolaire des enfants. C'est les thèmes de cette émission. Nous sommes en direct avec les psychologues maison, M. André et Tandala. Écrivez-nous à ces numéros. Nous allons vous accorder la parole. On va prendre la première question. Bonjour, je vous écris depuis la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, Monsieur Arthur. Comment distinguer les problèmes scolaires et les problèmes psychologiques des enfants?
La distinction entre les problèmes scolaires et les problèmes psychologiques des... les problèmes psychologiques, ce sont des difficultés qui peuvent avoir diverses origines, comme nous l'avons dit dans l'exposé, et qui peuvent donc avoir des répercussions sur l'ensemble des comportements de l'enfant. Et parmi ces comportements, il y a des comportements relatifs à l'adaptation sociale, à l'adaptation scolaire. Donc, les problèmes scolaires peuvent être influencés par les problèmes psychologiques. Et je souligne, je répète, les problèmes psychologiques, les problèmes qui fait que l'enfant soit en difficulté pour ce qui concerne, entre autres, l'adaptation sociale tout court et même l'adaptation scolaire et l'autoperception aussi, la manière dont l'enfant perçoit, se perçoit lui-même et perçoit les interactions avec les parents, avec l'environnement en général. C'est un peu ça.
Merci beaucoup, 081. 99 66 098. Bonjour Monsieur André, je vous écris depuis Gaumont. Quel rôle joue la famille dans la santé mentale et l'adaptation scolaire de l'enfant?
Merci beaucoup.
C'est la première question. Il y en a deux. Deuxième question. Les événements de vie, séparation, deuil, violence peuvent-ils influencer les parcours scolaires?
Bien sûr, c'est pratiquement la même question, puisque les événements de la vie se déroulent dans la famille, soit pour l'enfant, grosso modo, dans la famille, le groupe de pères. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la famille est le socle. La famille doit donner le maximum d'amour et faire en sorte que... de par son organisation, de par son style de vie, l'enfant acquiert en premier ce qu'on appelle la confiance. La confiance en lui-même, la confiance dans ses relations interpersonnelles, donc la confiance vis-à-vis des autres. Et c'est une question pour laquelle je vais demander à notre cher auditeur de Gaumont, vous avez dit?
Oui, Gaumont.
D'être patient, on va y revenir. Le rôle de la famille dans l'éducation, et donc dans l'instruction, dans l'adaptation scolaire. La famille a un grand rôle à jouer, parce que sans pour autant qu'on puisse anticiper, l'enfant est capable de s'adapter en dehors de la famille. S'adapter, ça veut dire avoir des relations normales, constructives, positives, en dehors de la famille, dans la mesure où l'enfant a des bonnes relations au sein de la famille, notamment avec ses parents et la fratrie, donc ses frères, ses sœurs, si c'est le cas. Donc la famille a un rôle nécessaire, indispensable dans l'adaptation scolaire de l'enfant.
Bonjour Papa André et Bob. Un enfant dès son plus petit âge, déjà fastidié de ne pas être intelligent à l'âge scolaire, celui-ci a des fils à retordre d'être prolifique intellectuellement, connaissant déjà ses faiblesses. Comment l'aider? Deuxième question, psychologiquement, l'inadaptabilité intellectuelle peut être héréditaire. C'est les frères Memento Mifuno.
Je commence par la dernière question. Oui, les gènes, parce que on nous dit que le siège, donc l'organe responsable de ce qu'on appelle l'intelligence, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est quoi? C'est tout un système. Donc c'est l'ensemble de un ensemble de cellules d'une nature bien donnée, bien connue. On appelle donc ça le neurone. Et nous avons le cerveau donc en tant que une partie de notre biologie, nous le devons à nos ascendants, à nos parents. Donc l'intelligence est aussi une question d'hérédité. La deuxième question, c'est le petit enfant qui est fustigé déjà qu'il n'est pas intelligent. Oui, ça peut arriver. Malheureusement, des conditionnements comme ça, à force de dire à un enfant, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, il va finir par se convaincre qu'il n'est pas intelligent. Alors qu'il... Je peux vous donner, si vous permettez, deux cas de personnes vraiment éminentes, mondialement connues. J'ai été, il y a de cela quelques années, dans la ville où a commencé sa formation intellectuelle un certain Moudimbe Vumbiyoka, un intellectuel très connu, paix à son âme, il vient de nous quitter, je crois, il y a quelques mois. Eh bien, on nous a dit que jusqu'à l'école secondaire, c'était un élève médiocre. Mais une fois qu'il est arrivé à l'université, c'est un génie qui s'était... Vous avez compris pourquoi? Certainement, problème de conditionnement familiaux, sociaux, etc. Ça peut être ça. Un autre cas que je peux vous donner, encore plus éminent, c'est un certain Albert Einstein. Vous avez compris? Il semblerait que ce monsieur-là aurait acquis l'usage de la parole autour de 4-5 ans. Et tout le monde croyait que c'était un arriéré intellectuel. Vous avez compris? Mais qui peut parler de l'intelligence aujourd'hui sans citer le nom d'Einstein? Vous avez compris. Donc, les conditionnements environnementaux sont nécessaires pour le développement de l'intelligence. Et gage, on voudrait exhorter les parents de ne pas se laisser aller par cette mentalité-là de fustiger les enfants. Tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Tu es, mais non, est-ce que vraiment c'est la faute à l'enfant? Supposons qu'il ne soit pas intelligent. Supposons qu'effectivement son coefficient intellectuel soit d'un certain niveau, comme ça. D'où est-ce qu'il a eu ça, ses causes? Son cerveau venait d'où? De lui-même, il s'est fait ce cerveau-là. Non, c'est les gènes parentaux. Il a reçu les gènes des parents et voilà. Donc, ce n'est pas question de fustiger, c'est question d'encourager et de voir comment orienter, comme on le verra un peu plus tard.
Nous poursuivons. Bonjour Radio Maria, c'est Jonathan Ponga depuis la paroisse à Sainte-Croix. Première question, les passés de l'enfant peut aussi affecter sa santé mentale. Deuxième question, comment en tant qu'éducateur, parents ou enseignants, ressortir l'enfant de cette inadaptation. La dernière question, troisième.
La deuxième, c'est quoi, s'il vous plaît?
Comment, en tant qu'éducateur, parents ou enseignants, ressortir l'enfant dans cette inadaptation? La dernière, la santé mentale est indispensable à tout être humain. En tant que psychologue, que diriez-vous sur la proposition pour chaque personne d'avoir l'attitude psychologique? Comme les cas de l'aptitude physique.
Commençons par la première question. C'était quoi?
La première question, le passé de l'enfant peut aussi affecter sa santé mentale?
Oui, bien sûr. La santé mentale est facteur de notre histoire en quelque sorte. Et même le malaise qu'on peut appeler une psychopathologie, vous avez compris, c'est une conséquence de ce qu'a été notre passé. En tout cas, du point de vue de la psychanalyse, c'est ça. Ou tout au moins, un passé qui a eu son poids tel que nous avons été conditionnés à nous comporter d'une façon, on va dire, dysfonctionnelle. Vous avez compris. Donc, le passé a un poids sur notre bien-être et même sur notre mal-être. Comment aider un enfant en tant qu'éducateur à c'est ce qu'on va répondre à cette question progressivement. Nous avons donné quelques pistes, hein, quelques éléments de réponse déjà à cette question. Eh bien, les parents il faut commencer par avoir un style de vie qui permet à l'enfant de s'épanouir sur le plan affectif et même biologique, globalement donc. Pour que l'enfant soit épanoui, il faut que l'école soit organisée avec une pédagogie bien appropriée pour que chaque enfant trouve sa place, que chaque enfant soit bien suivi selon son tempérament, selon ses aptitudes. Il faut que la collaboration s'installe entre la famille et l'école, notamment l'enseignant et la direction. Donc, tout un ensemble qu'il faut coordonner pour que l'enfant puisse sortir de l'inadaptation scolaire. Et si jamais c'est un problème de gène, bon, on va parler de l'intelligence. L'intelligence est multiple. Ce n'est pas parce que votre enfant est faible en conjugaison qu'il faut maintenant le mettre dans un tiroir et le classer, le catégoriser. Non. On peut être faible en grammaire, en intelligence linguistique, mais fort ailleurs. Donc, c'est question de collaborer avec l'école qui est censée avoir des agents bien qualifiés pour l'orientation scolaire afin d'aider des enfants qui ont certaines difficultés d'apprentissage dans des domaines, dans des branches bien précises, pour ne pas tomber dans cet amalgame. Il a échoué en mathématiques, donc il est bon à rien. Non, c'est pas comme ça. Il y avait une troisième question, là, excusez-moi.
Oui, la troisième question centrée sur votre point de vue. La santé mentale est indispensable à tout être humain. En tant que psychologue, que diriez-vous sur la proposition pour chaque personne d'avoir l'aptitude psychologique comme les cas de l'aptitude physique?
Écoutez, la santé d'abord, pour tout commencer, c'est selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La santé, c'est quoi? C'est un état de bien-être global et sur le plan physique et sur le plan psychologique et sur le plan, on va dire, spirituel. Vous avez comme donc être en bonne santé, c'est être à son aise, être bien dans son corps, dans son psychisme et dans son esprit. Alors la santé mentale, c'est une composante de la santé tout court. On ne peut pas dire je suis en bonne santé alors que vous avez des problèmes de santé mentale. Non, vous n'êtes pas en bonne santé tout court. Voilà. Donc, la santé mentale est nécessaire, indispensable pour le bien-être de tout être humain.
Voilà, nous poursuivons. Nous allons écouter Joseph Desmarie. S'il vous plaît, évitez des voices ou des messages sonores trop kilométriques. Hein. 1 minute 30, ça suffit. Au-delà des 2 minutes, 3 minutes, et pardonnez-nous s'il vous plaît. Donc, soyez concis et précis avec vos messages sonores. Nous allons quand même écouter Joseph Desmarie.
Bonjour Bob, bonjour cher papa et merci beaucoup pour cette très belle émission. Ne savez-vous pas que je dois être chez mon père? Ça, c'est la réponse d'un enfant apparemment surdoué et à l'âge de scolarité qu'il donne à ses parents. Alors, sur le plan psychologique, cette réponse-là n'est-elle pas psychopathologique et que elle nécessite, cette réponse-là nécessite un suivi sur la santé mentale de cet enfant-là au niveau de la psychologie quantitative pour arriver à détecter ainsi s'il y a une sorte de psychopathologie dimensionnelle. Malheureusement, par manque de psychologie à cette époque-là, Marie, sa mère, gardait toutes ces choses dans son cœur. Ma première question, prenons la santé mentale d'un enfant surdoué à l'âge de scolarité, mal compris à l'école par ses professeurs et par ses camarades. L'enfant, du coup, se retrouve isolé parce qu'incompris. Et du coup, il a la difficulté de s'adapter en milieu scolaire, tout simplement parce qu'il est toujours en avance de plusieurs années sur le plan intellectuel, contrairement à ses professeurs et à ses camarades. Et conséquence, cet enfant surdoué commence à faire de mauvaises cotes ou de mauvaises notes à l'école Et parfois, on les voit dormir en classe parce qu'il connaît pratiquement déjà la matière en avance et donc il s'ennuie et du coup il baigne dans l'anxiété, quiz de cette problématique. Et pour finir, cher papa, je pense que la santé mentale d'un enfant en voie de scolarité relève aussi de sa santé ou de la santé de son sommeil. L'enfant doit dormir combien d'heures par jour ou durant la nuit. La nutrition, les enfants aujourd'hui mal nourris, l'hygiène corporelle ou l'hygiène de vie, l'activité physique, combien d'enfants font les activités physiques, la gymnastique. Alors, quiz alors des enfants nés au village, dans des milieux pauvres. Mais une fois à Kinshasa, ces enfants-là brillent sérieusement à l'école. Parce qu'il est prouvé aujourd'hui que la plupart de nos professeurs d'université, ce sont des villageois, venant fraîchement du village, et qui sont venus briller ici, et ils nous enseignent. Merci, cher papa.
Alors, merci pour votre Macédoine, bien-aimé frère. La réponse de Jésus à ses parents était-elle une réponse d'un enfant qui a des problèmes psychiques? Quand tu parles de Jésus, tu ignores que Jésus, une seule personne avec deux natures, c'est ça. Il est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Donc Jésus, quand il dit « je dois rester chez mon Père », est-ce qu'il est dans l'erreur? Est-ce qu'il délire? C'est la question qu'on pourrait te poser. Mais la question que je me pose moi-même, que j'aurais besoin de poser à un psychologue, est-ce qu'il est permis à un psychologue d'ignorer la spiritualité en tant que telle? Et donc de comprendre ou d'interpréter le comportement verbaux ou non verbaux de Jésus à la lumière de la spiritualité de Jésus. Ça veut dire à la lumière de la divinité de Jésus. Si vous voulez dissocier Jésus Dieu de Jésus homme, vous êtes dans l'erreur. Quand il parle en tant que Dieu et homme, voilà. Donc, je n'ai pas de réponse à vous donner sur l'éventuelle psychopathologie de Jésus, parce que ça serait une façon de, seulement d'amuser la galerie, mais Jésus n'est pas... J'ai déjà dit ici, mon frère, au moins 20 000 fois. Moi, quand j'ai lu les évangiles, j'entends lire les évangiles, je n'ai jamais vu un homme aussi équilibré que Jésus. Sur le plan psychologique, Jésus, c'est la personne que je trouve la plus en tout. Vous pouvez me citer comme ça, comme c'est ce que vous venez de dire. Par hasard, comme ça, un extrait où Jésus parle, où c'est compris. Vous direz, eh bien, sur le plan psychologique, ça signifie ça. Ça, c'est Jésus, il est Dieu et il dit vrai. Alors, vous allez lui dire qu'il est psychopathe, il a une psychopathologie pour ça, je ne pense pas. La santé mentale d'un enfant surdoué. Moi, je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un enfant qui a été marginalisé à cause de son intellect. Donc, quand j'étais enfant à l'école, même adolescent, tout ça, même à l'université, ceux de nos condisciples qui avaient un certain degré d'intelligence, qu'on va dire enviable, c'était des gens qui étaient entourés de beaucoup d'amis. Moi, quand on était à l'école primaire, des élèves très intelligents étaient bourrés de cadeaux d'autres élèves parce qu'il fallait les aider à travailler. Alors, quand vous dites l'enfant surdoué qui se trouve isolé et puis tombe dans l'anxiété, j'ai bien peur qu'il ne s'agisse de votre imagination et non pas de la réalité que vous avez vécue vous-même et nous exposer ici comme votre problème. La troisième tranche de la question, je ne me rappelle pas, excusez-moi. Voilà. C'était tellement kilométrique que...
Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui désirent participer à cette émission, soyez concis et précis, 1 minute 30, ça va, ou 1 minute pour... vous écoutez. On va prendre ce message. Bonjour, Radio Maria, c'est Salem. Depuis la paroisse Christ-Roi, quels comportements en classe doivent alerter les enseignants? Là, il parle des enfants. Quels comportements en classe doivent alerter les enseignants? Et deuxième question, quelle collaboration est nécessaire entre enseignants, parents et psychologues.
Quelle collaboration nécessaire entre... Eh bien, je commence par la deuxième question. Il faut que le parent cultive l'habitude de s'enquérir sur le fonctionnement de leurs enfants à l'école, sur la ponctualité pour tout commencer, sur l'obéissance ou la collaboration avec l'autorité et sur l'application. Voilà pourquoi il existe dans beaucoup d'écoles, en tout cas, à ce que je sache, ce qu'on appelle cahier de communication. C'est un instrument de travail mis à la disposition de l'élève, mais qui constitue, qui fait le pont entre les parents et l'école. Eh bien, il est recommandé que au moins et tous les trois jours que le parent jette un coup d'œil dans le cahier de communication. Qu'est-ce qui est noté? Qu'est-ce que l'école a dit? Et le parent aussi, s'il doit, il doit entrer en relation, il peut le faire avec l'école, pardon, il doit entrer en relation avec l'école, il peut le physiquement, donc il se présente lui-même physiquement, ou il peut faire des notifications par le cahier de communication et aller donner, demander à l'enfant d'aller présenter aux autorités scolaires. La deuxième question, c'est la première question, c'était comment on peut s'alarmer, à partir de quel moment s'alarmer sur le comportement des enfants. Ça dépend de l'âge de l'enfant, du tempérament de l'enfant. Mais de façon générale, une insoumission répétitive, donc le refus systématique d'obtempérer, d'obéir aux normes, donc aux règlements d'ordre intérieur. Un refus systématique de prendre des notes, par exemple, de travailler en classe pratiquement. Une mauvaise habitude dans la tenue des objets classiques, dans l'habillement. Eh bien, tout ça sont des éléments qui peuvent amener, ou des comportements qui peuvent amener l'enseignant ou l'autorité scolaire à se pencher sur un cas particulier d'un enfant. Donc la façon d'interagir avec les camarades, c'est des bagarres ou c'est une timidité extrême, etc., etc. Tout ça, ce sont des comportements qui devraient mettre la puce à l'oreille de la part des autorités scolaires et en faire part aux parents, pour qu'ils puissent collaborer et trouver des voies et moyens d'aider l'enfant à sortir de ces mauvais comportements-là.
Merci beaucoup. Écoutons Madame Christine Changa-Changa-Bokongo.
Bonjour Papa André, bonjour Bob, bonne année. Merci pour les différents thèmes chaque fois exploités. Et merci surtout d'être là, en équilibre entre la psychologie et la spiritualité. C'est vraiment un psychologue maison de la Vierge Marie. Je vous encourage et nous vous accompagnons avec nos prières. Un grand merci. Même nous, les grands-parents, nous sommes concernés à suivre parce que parfois, il nous arrive aussi d'aider aussi des petits-enfants. Un grand merci, Papa André. C'est Maman Christine Changa-Changa-Bokongo. Merci.
Merci Maman Christine, ça nous va droit au cœur pour la prière et les encouragements. Que Dieu vous bénisse abondamment Maman. Continuez à prier pour nous, pour la radio, pour tous les personnels de la radio. Merci beaucoup.
Voilà. Bonjour ma radio, que faire pour un enfant qui a changé les pays et qui n'arrive pas à parler vite? Exemple, j'ai pas compris, EX c'est quoi? Qui a déjà presque 4 ans. Est-ce que l'enfant a un problème psychiatrique ou pas? Merci beaucoup, c'est Solange de Marie, plus 47. Je pense que c'est...
Plus 47, c'est Norvège. En Norvège. Ben, c'est Solange. Maman Solange, bonjour et merci pour les soucis de partager. Mais on a du mal à vous comprendre. Quand vous dites un enfant de 4 ans qui a changé le monde, c'est ça?
Bon, elle dit, d'ailleurs, elle a ajouté quelque chose là. Que faire pour un enfant qui a changé les pays et qui n'arrive pas à parler vite? Donc, l'enfant rencontre une nouvelle langue.
Ah, ok. Donc, changement du milieu social, c'est ça? Ah, ben, c'est compliqué. il faut de la patience pour un enfant pareil, de la patience, et surtout renforcer les liens au sein du milieu éducatif de cet enfant-là, notamment la famille. Il faut que l'enfant soit vraiment intégré, mettre tout en jeu pour que l'enfant soit intégré dans la famille. Qu'il s'agisse de parents adoptifs ou de parents biologiques, eh bien, il faut que l'enfant se sente aimé, voulu, désiré, apprécié. Ça va l'aider, si c'était le cas d'un blocage affectif, ça peut arriver, se débloquer et apprendre la nouvelle langue. Parce que dans ce cas-là, il faut éviter de parler à l'enfant dans une langue qui n'est pas vraiment usuelle dans le nouveau milieu. Il faut l'aider à parler dans la langue qui sera la sienne désormais et la parler correctement.
Bonjour ma radio, la croissance précoce chez l'enfant peut avoir aussi des effets sur sa psychologie. C'est Jean depuis Bukavu.
C'est une question qui n'est pas très explicite, mais que je peux essayer d'interpréter, si vous permettez.
Allez-y.
Donc, le développement cognitif précoce peut-il influencer la psychologie? Peut-être qu'il veut, parce que la précocité, c'est le fait que l'enfant, il a un âge mental qui n'est pas celui de son âge chronologique. Un enfant de 10 ans qui résout les problèmes d'un enfant de 15 ans, ça c'est une précocité. Donc, cela, ça peut faire en sorte que cet enfant-là vive non pas selon les comportements de la moyenne des enfants de son âge, mais comme un enfant qui n'est pas de son âge. Ça peut avoir de l'impact, je crois, sur son développement psychoactif. Ça peut être ça.
Merci à vous, M. André Tandala. Nous terminons par là. Quoi retenir?
Ce qu'il faut retenir, c'est que moi, je tiens à dire ceci, que ne gâchons pas la vie de nos parents avec certains stéréotypes. Hein. Mon enfant échoue parce qu'il n'est pas intelligent. Non, ce n'est pas forcément ça. Mon enfant échoue. Je fais un diagnostic. Pourquoi est-ce que mon enfant a échoué? Est-ce parce que je n'ai pas été suffisamment présent dans l'encadrement de l'enfant? Est-ce parce que l'enseignant n'a pas bien fait son devoir? Est-ce que l'enfant subit trop l'influence de ses camarades? Au lieu de vous laisser emporter par la colère, essayez de réfléchir et poser des questions à l'enseignant, informez-vous et suivez l'enfant. En tout cas, ça c'est le but principal de ce nouveau thème. N'inculpons pas les enfants, culpabilisons pas les enfants parce que le rendement scolaire n'est pas celui auquel nous nous attendons. Non? Faisons un effort de comprendre la situation de l'enfant pour pouvoir mieux l'aider. Merci beaucoup. On aura tout le temps développé toutes ces idées dans nos prochaines causeries. Si vous permettez, je peux donner un numéro.
Exactement, et c'est là qu'il désire parler avec vous.
Oui,
l'oreille.
Oui, alors vous pouvez appeler Papa André au numéro suivant, 082-20-029-18, 082-20-029-18. Merci à vous, Papa Bob, merci à tout le monde.
Merci à tout le monde, ce n'est que les débuts, on a jeté les bases. Merci à vous, merci à Nicolas Monakunda et Radis. De l'autre côté de la technique, nous vous retrouvons très prochainement. Suivez en mode rediffusion cette émission dimanche à 13h juste. Et sur le site web, au cours de la journée, ça sera déjà placé. Portez-vous bien, au revoir.
Rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Aimer la vie,
aimer ensemble.
Donner sa vie,
donner ensemble.
Choisir la vie, aimer la vie toujours
donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Payer de soi,
payer ensemble.
Risquer de soi, chercher en soi, payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Changer nos cœurs, rester veilleurs,
rester ensemble.
Marcher sans peur,
marcher ensemble.
Changer nos cœurs, toujours rester veilleurs pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde.
Bâtir demain.